Chères auditrices, chers auditeurs, ravis de vous retrouver à l'écoute et heureux de partager ces moments avec vous, comptant toujours sur la grâce de Dieu et l'aide du Saint-Esprit, nous arrivons au terme de notre étude concernant l'Église de Jésus-Christ. L'Écriture a été et reste pour nous la référence, le fondement de notre foi. Notre méthode d'étude est de laisser parler l'Écriture, de sorte que nous disons « Voici ce qui est écrit et c'est cela que nous croyons ». L'Évangile nous rapporte l'épisode suivant. Je lis dans Luc chapitre 10 versets 25 et 26, Bible français courant. Un maître de la loi intervint alors. Pour tendre un piège à Jésus, il lui demanda « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Qu'est-il écrit dans notre loi ? Qu'est-ce que tu y lis ?» Oui, tout simplement, ce qui est écrit, ce que tu lis, répond à la question posée. Et en faisant cela, on constate que la Bible s'explique par elle-même, que les Écritures se complètent pour être une lampe devant nos pas, une lumière qui éclaire notre route. Ce jour, je vous propose un survol de ce que nous avons examiné au cours des mois passés, une récapitulation des chapitres relatifs à l'Église. Qui en sont les membres? Quel symbole nous la présente? Les services qui s'exercent en son sein et qui contribuent à sa croissance? Mais aussi les dysfonctionnements que l'Écriture nous révèle. Je rappelle que les émissions au cours desquelles nous avons abordé en détail ces sujets sont à disposition sur notre site, dans la rubrique « Émissions », auteur Elios Miquel, troisième jeudi, à disposition en replay ou en lecture texte. Jésus l'a annoncé « Je bâtirai mon Église ». Dans Actes chapitre 2, verset 47, nous lisons ceci. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'Église est donc l'assemblée ou le rassemblement de ceux qui sont sauvés. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons 12 qualificatifs qui les désignent. En premier, nous trouvons la mention de « disciples ». Actes chapitre 2, verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. On devient disciple en confessant le Sauveur dans les eaux du baptême. C'est la mise en œuvre de l'ordre de mission donné par Jésus à ses apôtres. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. » Ensuite, nous avons la mention de chrétiens. Actes chapitre 11, verset 26. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens, soit petit Christ ou comme Christ. Cette appellation, donnée au départ par moquerie, était un vrai compliment pour les disciples. Elle soulignait qu'ils ressemblaient à leur maître. Jésus l'a dit, le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Puis, mention de croyant, 1 Corinthiens chapitre 1er verset 21. Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Rappelons simplement que le salut, proposé à tous les hommes, se saisit par la foi. Ensuite, enfant de Dieu ou fils. 1 Jean chapitre 3 verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Alléluia. Galates chapitre 4 verset 6. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Enfant ou fils, voilà un grand privilège qui implique une grande responsabilité, celle d'agir comme le Père. Jésus le précise dans Matthieu chapitre 5, versets 44 et 45, je cite « Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste. » De ces mentions découlent les suivantes. Héritier ou co-héritier. Romains chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Extraordinaire. Partager la gloire céleste avec le Seigneur. Et naturellement, frères, Matthieu chapitre 23, versets 8 et 9. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, c'est le Christ. Et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est celui qui est au ciel. Tous les enfants de Dieu se retrouvent frères dans la foi. Dans l'Église de Jésus-Christ, toute notion de race, de nationalité, etc., disparaît. Galates chapitre 3, versets 27 et 28. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Autre qualificatif pour désigner ceux qui sont sauvés, rachetés, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20, élus, Matthieu chapitre 24 verset 3, saints et fidèles, Éphésiens chapitre 1er verset 1er. J'affectionne tout particulièrement le 11e qualificatif, bien-aimé, 1 Jean chapitre 2 verset 7. Quant au 12e, témoin, acte chapitre 1er verset 8, sonne comme une vocation pour tout membre de l'Église de Jésus-Christ, témoin de sa grâce à notre égard, disant autour de nous tout ce qu'il a fait pour nous. L'Église est l'assemblée ou le rassemblement de ceux qui sont sauvés. Alors, certains ont rêvé à une réunion, un meeting, comme disent nos frères anglophones, dans lequel les chrétiens du monde entier se retrouveraient. Impossible à concrétiser. Toutefois, quand bien même cela se ferait, nous n'aurions pas pour autant rassembler l'Église de Jésus-Christ. Il nous faut distinguer deux notions de l'Église, l'Église locale et l'Église universelle. L'Église universelle n'est pas le rassemblement des églises locales. Elle est spirituelle et ne sera manifestée que dans l'éternité lorsque, lors de l'enlèvement, tous les croyants de tous les temps et de tous les lieux seront réunis dans la gloire. L'Église locale est une réalité de terrain et historique. Comme son nom l'indique, elle est cise à tel endroit, dans telle ville ou contrée, à Corinthe, à Éphèse, à Thessalonique, à Rome, en Galatie, comme le précisent les lettres adressées par les apôtres aux chrétiens de ces localités. Lorsque l'Église universelle sera manifestée et qu'elle paraîtra comme telle, l'Église locale aura cessé d'exister en tant que locale. C'est l'un ou l'autre. Une précision concernant ce qui compose l'Église de Jésus-Christ. ils ne sont que des humains, avec tout ce que cela implique. Quelqu'un a dit que ce sont des PDG, des pécheurs délivrés par grâce, ou dit d'une autre manière, ils étaient des pécheurs perdus, maintenant ils sont des pécheurs sauvés. Alors, à ceux qui recherchent l'Église locale parfaite, disons-le avec humour, que s'ils avaient le sentiment de l'avoir trouvée, elle ne le serait plus de parfaite, car ils s'y seraient ajoutés. Nous écoutons maintenant une page musicale. Divers symboles illustrent l'Église de Jésus-Christ. L'image qui nous vient à la pensée en évoquant l'Église, c'est l'édifice. 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. L'Église de Jésus-Christ est une maison spirituelle formée de pierres vivantes. Précisons, de ceux qui sont sauvés, soit les rachetés et autres noms mentionnés avant la pause. Un édifice dont Jésus est la pierre angulaire. C'est ce qui est souligné dans Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi, vous n'êtes plus étrangers ni gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu, ayant été édifié sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre maîtresse de l'angle. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16, mentionne ceci, « Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant. » Un temple est un lieu, un sanctuaire, dans lequel Dieu, qui demeure partout, se localise. Exode chapitre 25, versets 8 et 9. « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Le nom de temple, puis d'église, voire de cathédrale, a été donné à l'édifice qui accueillait les rassemblements des croyants. Un autre symbole utilisé pour illustrer l'église de Jésus-Christ est le corps. Éphésiens chapitre 1, versets 22 et 23. Et 23, Bible français courant, Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Christ et il l'a donné à l'Église comme chef suprême. L'Église est le corps du Christ. C'est en elle que le Christ est pleinement présent, lui qui remplit tout l'univers. Je lis encore. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Tous les membres n'ont pas la même fonction. Cependant, chaque membre du corps est utile, a une ou plusieurs fonctions à remplir. J'ignore si à ce jour, la science a compris l'utilité de l'appendice iléo-caélical, mais le Créateur l'a prévu au bon emplacement et pas pour rien. Troisième symbole, la fiancée, l'épouse de Christ. Je lis 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. En effet, je suis jaloux de vous de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Apocalypse chapitre 19 verset 7 et 8. Nous lisons ceci. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin tissu de lin, éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Dans l'attente des noces, l'épouse se prépare, se pare avec les œuvres justes. Ici, encore nous avons la notion de service. Le moment venu, le Seigneur lui-même viendra accueillir son épouse sur le pas de la porte, lors de l'enlèvement de l'Église. Autre symbole, la nouvelle Jérusalem. Apocalypse, chapitre 21, verset 9 à 11. Et aussi le peuple, la famille de Dieu. L'Église de Jésus-Christ est centrée sur la personne du Christ. Il en est le chef, voir Éphésiens chapitre 5, verset 23. Il en est la tête, voir Colossiens chapitre 1, verset 18. Il est la pierre angulaire, voir Éphésiens chapitre 2, verset 20. Il est aussi l'époux attendu. La vocation de l'Église, c'est-à-dire sa mission, son service, est d'être la colonne et l'appui de la vérité. 1 Timothée chapitre 3, verset 15, chargé de proclamer les œuvres magnifiques de Dieu. Je cite 1 Épître de Pierre chapitre 2, verset 9, Bible français courant. Mais vous, vous êtes la race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière, afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. Chaque membre du corps est impliqué dans ce programme. Sauver pour servir. Servir le Dieu vivant est vrai. En priorité dans les services tournés vers lui. Et le premier est l'adoration. Je lis Hébreux chapitre 13, verset 15. Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Le service qui suit est l'intercession. Jacques chapitre 5, verset 16. Priez les uns pour les autres. Romains chapitre 10, verset 1er. Et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Jésus recommande à chacun d'eux, je cite, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Matthieu chapitre 9, verset 38. Attention à ce que dit Ésaïe. Je cite, l'Éternel s'étonne de ce que personne n'intercède. Ésaïe chapitre 59, verset 16. Après les services tournés vers le Père, nous avons les services tournés vers les hommes. En premier, le témoignage. Jésus a dit, « Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. » Simplement dire ce qu'il a fait pour nous, comme le Seigneur le recommande à l'homme, délivré de mauvais esprits et qui voulait rester avec lui. Je cite, « Retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Et l'homme est parti et a proclamé dans la ville entière tout ce que Jésus avait fait pour lui. Remarque, le vécu parle plus fort que les paroles. L'apôtre Pierre écrit ceci, « Afin que si quelques-uns d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la fois par votre conduite. Des paroles ne seront même pas nécessaires. » Cela vaut aussi pour le cas où c'est l'épouse qui ne croit pas. Hélas, parfois l'attitude du conjoint est contre-productive, car ses actes ne correspondent pas à ce qu'il dit être. Après le témoignage, nous trouvons mention de la prédication. Actes chapitre 6, verset 4, Bible français courant. Nous pourrons ainsi continuer à donner tout notre temps à la prière et à la tâche de la prédication. D'autres versions traduisent par, je cite, « le ministère de la parole ». Ce service de la prédication n'est pas confié à tous les membres du corps. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 28 et 29. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants. Ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? À ces questions, la réponse implicite est non. Jacques apporte une précision, je cite, « Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. » Paul déclare, « Notre capacité vient de Dieu. » 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5. « Dieu qualifie chacun pour le service auquel il est appelé. Cela concerne tous les services, qu'ils soient « entre guillemets spirituels » ou « entre guillemets matériels ». Voir le nommé Betsalil, le nommé Oholiab et tous les autres. Exode chapitre 36, verset 1er. En qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire. Dans Actes chapitre 1er, verset 8, il est dit « Vous recevrez, vous serez ». Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, il est dit « Puis, ceux qui ont les dons de secourir, de gouverner, dons de secourir, de gouverner, ce sont là des qualifications spirituelles pour l'administration de l'Église et des actions humanitaires. Tous les services exercés au sein de l'Église ont pour but son affermissement et sa croissance. Hélas, on ne peut passer sous silence une réalité qui affecte l'Église, car si les services la fortifient, des situations, telles des maladies, atteignant le corps, contribuent à affaiblir l'Église. Ces situations, au sein de l'Église, sont à déplorer. En faire mention n'a pas pour but de les banaliser, comme pour les rendre acceptables. Elles sont une réalité, et ce, depuis l'Église primitive. Car, rappelons-le, l'Église est composée d'hommes et de femmes avec toutes les faiblesses inhérentes à la nature humaine. L'Écriture, telle un miroir, nous en donne un reflet fidèle qui peut éclairer notre cœur. Ainsi, nous ne serons ni surpris ni déçus, mais nous pourrons prier efficacement, après diagnostic du problème, qu'il soit dans notre attitude ou celle d'autrui. Alors, que voyons-nous? Des comportements enfantins, l'esprit de clan qui génère des disputes. Je cite l'apôtre. Quand l'un déclare « Moi, j'appartiens à Paul », l'autre « Moi, à Apollos », n'agissez-vous pas de manière toute humaine? Quel remède Paul préconise-t-il? je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 4 à 10. Enfantin aussi, les querelles de mots, de Timothée 2, 14. Qu'on évite les disputes de mots, elles n'édifient pas, mais au contraire, elles ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Il y a également l'inconstance, soit le dernier qui parle à raison. C'est le drame des églises de la Galatie qui se sont promptement détournées de l'enseignement reçu, fascinées par l'enseignement de faux apôtres. Avant d'aborder les comportements rappelant l'adolescence, écoutons une nouvelle page musicale.
When Jesus washed, oh, when he washed, he washed my sins away.
L'adolescence, entre autres attitudes, se distingue par la contestation de toute autorité. À Corinthe, il y avait quelques boutonneux. Paul dit, je cite, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 2, « Quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. » Puis du verset 3 jusqu'au chapitre 12, verset 21, Paul défend son apostolat. Je cite, « J'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. » Chapitre 11, verset 5, chapitre 12, verset 11. Le danger, en contestant ainsi le ministre, en fait le ministère de la parole, c'est de rejeter l'autorité de la parole de Dieu, donc Dieu lui-même. Comme autrefois, le peuple d'Israël en demandant un roi. 1 Samuel chapitre 8, verset 7. Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette. Le remède, prendre modèle sur les Thessaloniciens et les Béréens. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. De ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Un proverbe français déclare, je cite, « Petits enfants, petits soucis. Grands enfants, grands soucis. Les maladies touchant l'Église affecteront aussi ceux qui ont une position d'adulte dans la foi. » Populairement, on dit « majeurs et vaccinés ». Oui, des responsables sont aussi concernés. Alors que voyons-nous? Petit a, perdre la bonne conscience. On ne peut perdre que ce que l'on a eu. Exemple, le nommé Hyménée. 1 Timothée, chapitre 1, versets 19 et 20. Quelques-uns l'ont perdu. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ici, la saine doctrine confère Jude, verset 3. Un chrétien est quelqu'un qui a été éclairé, dont la conscience a été éveillée aux choses spirituelles par l'instruction de la parole de Dieu. Le fait pour lui de bâillonner sa conscience lorsqu'elle le reprend produit des fruits terribles. Il fait naufrage par rapport à la foi et il blasphème, c'est-à-dire prononce des paroles outrageuses pour la vérité de Dieu, car elles sont en opposition avec la saine doctrine. Je cite 2 Timothée chapitre 2, versets 17 et 18. Qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. La fausse doctrine ronge comme la gangrène et fait des ravages chez ceux qui écoutent. Pour la protection des croyants, elle, la fausse doctrine, est à combattre, à dénoncer fermement. Autre exemple avec le nommé Alexandre. Il est dit à son sujet, de Timothée chapitre 4, versets 14 et 15, « Il s'est fortement opposé à nos paroles. C'est un fruit de la perte de la bonne conscience et du naufrage de la foi. » Ensuite, il y a les divisions ou le fruit de la préchyte. Attention aux dangers produits par, entre guillemets, des non-qualifiés. 1 Timothée chapitre 1, versets 6 et 7. Quelques-uns se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Leur objectif ? Entraîner les disciples après eux en faisant entendre des choses agréables, soit un évangile édulcoré où l'on ne reprend pas le pécheur. 2 Timothée chapitre 4 versets 2 à 4. Ensuite, il y a l'abus de pouvoir, comportement anormal du nommé Diotrephe. Troisième lettre de Jean 9 et 10. Il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Attitude de dictateur générée par l'orgueil. Il aime à être le premier, comme les pharisiens. Matthieu chapitre 23, versets 6 à 8. Ensuite, il y a l'abandon du combat de la foi. 2 Timothée chapitre 1, verset 15. Comme tu le sais, tous ceux de la province d'Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Trouvait-il Paul et sa, entre guillemets, rigueur trop dure ? Autre exemple avec Démas, dont il est précisé ceci, de Timothée chapitre 4, verset 10. Par amour pour le siècle présent, attrait du matérialisme, besoin de confort, à tout moment de la croissance spirituelle, nous sommes affectés par des carences et des défaillances. Au répertoire, nous avons les troubles de la vision. Jésus a dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. La myopie, soit une vision limitée. De Pierre, chapitre 1, verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Je cite ensuite la presbytie, soit ne voir qu'au loin. La vision de proximité est floue. C'est ne s'intéresser qu'aux choses eschatologiques et ne pas voir les besoins de proximité. Quand le docteur de la loi a demandé à Jésus « Qui est mon prochain ?», Jésus a évoqué l'homme agressé sur la route de Jérusalem à Jéricho, soulignant que le sacrificateur et le lévite sont passés outre, tandis que le samaritain a pris soin du blessé. Ensuite, il y a l'astigmatisme. C'est voir d'une manière déformée. Cela va générer des erreurs d'appréciation, des craintes, voire des jugements, au contraire de l'amour qui ne soupçonne pas le mal. Ensuite, il y a la cataracte. La vision se fige. On ne voit plus. C'est le cas de celui qui déteste son frère. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 11. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. La dyslexie, c'est inverser, confondre les lettres, les syllabes, les mots, d'où difficulté à identifier et comprendre ce qui est écrit. Pour ceux qui sont sincères, c'est-à-dire de bonne foi, le Saint-Esprit est le meilleur des orthophonistes. Il y a le mirage. Il est le fruit d'une illusion d'optique. Et l'on se retrouve hors des réalités de Dieu, en marge des vérités spirituelles. Celui qui, entre guillemets, se borne à écouter la parole sans la mettre en pratique, s'abuse lui-même par de faux raisonnements. De même, celui qui pense être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur vite à côté de la réalité. Jacques, chapitre 1er. L'illusion d'optique produit des, entre guillemets, illuminés. C'est une espèce dangereuse. Je cite Ézéchiel. Ils prophétisent selon leur propre cœur. Vous dites, l'Éternel a dit, et je n'ai point parlé. Alors, quel est le remède à ces problèmes de vision? Réponse, entre guillemets, acheter de Dieu un collyre pour oindre les yeux, Apocalypse chapitre 3 verset 18, et marcher dans la lumière donnée par la parole de Dieu, 1 Jean chapitre 1 verset 7 et 2 chapitre 2 verset 10. Après les troubles de la vision dans la rubrique carence et défaillance, nous trouvons les déficiences de l'ouïe. Comme les illusions d'optique sont néfastes, une mauvaise oreille ne peut générer un bon résultat. Jésus a donné cet avertissement. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Il ponctuait souvent son enseignement par ces paroles. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parmi les déficiences de l'ouïe, nous notons l'oreille entre guillemets chatouilleuse, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. 2 Timothée chapitre 4, versets 3 et 4. Il y a ensuite la sourde oreille. Plusieurs disciples, après l'avoir entendu dire, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jean chapitre 6, verset 60. Question à propos de Tychus. Acte chapitre 20, verset 9, il est dit « Il s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Écoutait-il d'une oreille distraite? Ou simplement, était-il fatigué au point de ne pouvoir rester attentif longtemps? Le remède à ces problèmes d'audition, avoir la bonne oreille, c'est-à-dire celle du disciple. Ésaïe, chapitre 50, verset 4. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Cela nous amène à une oreille, entre guillemets, exercée, celle qui retient ce qui est bon. Parmi les défaillances qui se manifestent au sein de l'Église locale ou sont susceptibles de se manifester, car l'Écriture les mentionne pour que l'on puisse les prévenir, nous trouvons mention du désordre. Jacques, chapitre 3, verset 16. Car là où règne jalousie et esprit de rivalité, il y a aussi le désordre et toute espèce de mal. Autre mention, 2 Timothée, chapitre 3, verset 6 à 15. Nous apprenons cependant que quelques-uns parmi vous mènent une vie désordonnée. Ils ne travaillent pas, mais se mêlent des affaires des autres. Nous invitons ces gens-là et nous les encourageons par notre Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement pour manger leur propre pain. Ici, le désordre, c'est manger le pain des autres, soit vivre au crochet des autres. Et n'en déplaise à certains, être au chômage ne peut être considéré comme une bénédiction. Le Seigneur nous incite à travailler et aide ceux qui se confient en lui dans leur recherche d'emploi. Autre mention du désordre, dans le cadre des assemblées de l'Église, la manifestation de l'Esprit doit être donnée pour l'utilité commune. Pour atteindre ce but, l'exercice des dons spirituels est, entre guillemets, cadré. 1 Corinthiens chapitre 14 versets 26 à 33, que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue ? Que deux ou trois, au plus, parlent, chacun à son tour. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Cela souligne la responsabilité du prophète quant à son intervention, choix du moment favorable et ne pas faire surnombre. Tout prophète est maître de l'esprit prophétique qui l'anime et, de ce fait, a donc le pouvoir de commander à son inspiration et de la garder sous son contrôle, cité de parole vivante. Voilà pourquoi l'enseignement concernant les dons spirituels, chapitre 12, chapitre 13 et chapitre 14, se termine par cette parole, « Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 40. L'Esprit de Dieu ne crée jamais de désordre, étant toujours dans le respect de ce que lui-même a établi. Attention à l'oisiveté. Alors qu'il y a tant de services à remplir au sein de l'Église, certains restent sans rien faire. Danger. Car il est faux de dire qu'en ne faisant rien, on ne risque pas de mal faire. Jacques chapitre 4, verset 17. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Paul cite les jeunes veuves comme étant des pipelettes. 1 Timothée chapitre 5, verset 13. Étant oisives, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Attention au sommeil spirituel. Proverbes chapitre 6, versets 10 et 11. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Réparateur dans les temps de repos, sieste, nuit, le sommeil, l'assoupissement peut s'avérer dramatique quand il nous surprend, quand il survient lorsque nous circulons en voiture. On ne peut ignorer deux fléaux terriblement dévastateurs, tant sur le plan individuel que collectif, l'orgueil et l'incrédulité. Et sans commentaire, je cite Jacques chapitre 4, verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux, puis Proverbes chapitre 16, verset 18. L'orgueil précède la chute, et encore Hébreux chapitre 3, verset 19. Ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Je rappelle que ces choses relatives aux maladies qui affectent l'Église, tout comme les services qui œuvrent en son développement, ainsi que les ressources avec lesquelles l'Église fonctionne, abordées en détail dans des chapitres spécifiques, sont à disposition sur notre site dans la rubrique « Émission » auteur Elios Michel, troisième jeudi, à disposition en replay ou en lecture texte. Conclusion, l'Église est composée de pécheurs sauvés, hommes et femmes imparfaits au nombre desquels nous sommes. Ne soyons pas surpris lorsque ces choses se produisent en son sein comme une sorte de fournaise pour nous éprouver. 1 Pierre chapitre 4, versets 12 et 13. Reconnaissons que nous-mêmes avons aussi été atteints, parfois même avons été contagieux et source de souffrance pour les autres. Pardon et compassion sont les deux mamelles de la communion fraternelle. Veillons à ne pas être pour les frères une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. La bonne santé spirituelle passe par une communion toujours plus grande avec le Seigneur. Jean chapitre 15, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même, ainsi vous ne le pourrez non plus si vous ne demeurez en moi. Si nous sommes affectés de quelque sorte, que ce soit par ces maladies, demandons le secours de celui qui guérit toutes tes maladies. Psaume 103, 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Amen.